podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Comme chacun a pu le constater, le biopic a la cote à Hollywood ces dernières années. Pour les producteurs, il s'agit surtout d'une manière assez simple de faire exploser la machine à billets verts. Ray Charles, Marilyn Monroe, plus récemment Diana et bientôt Grace Kelly composent cette liste interminable. En 2005, CBS consacrait une mini-série à Elvis Presley avec Jonathan Rhys-Meyer dans le rôle du King. On en parle aujourd'hui avec Héloïse Rouard et Cindy Willem.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien bonjour à vous deux. Comme à chaque fois, Héloïse, la même question. Romancé ou pas, ce biopic nous dit-il tout sur la vie de la superstar?
Avant de vous dire tout peut-être sur cette mini-série et peut-être même sur la vie du King, je voulais juste vous parler du King en quelques chiffres parce que ça a été aussi une surprise quand on m'a donné cette mini-série entre les mains. J'ai fait quelques petites recherches et je voulais faire part donc de ces chiffres. Il faut savoir que Elvis Presley, c'est quand même 1 milliard de disques vendus à travers le monde. C'est 31 films, c'est 1156 concerts aux États-Unis, dont 525 rien que pour Las Vegas. C'est le premier artiste dont le concert a été retransmis par satellite dans 54 pays simultanément. 1,5 milliard téléspectateurs. Donc c'est vraiment des chiffres qui font en tout cas frissonner. Il faut savoir que sa fortune s'élevait à 150 000 dollars quand il est mort.
Ça donne le tournis surtout.
Ça donne le tournis et ça explique pourquoi le King fait toujours rêver et c'est toujours aux yeux de tous et ça restera toujours une superstar.
Si on revient sur la série, je suppose que Elvis, on suppose qu'elle parle de la vie d'Elvis et du parcours de sa vie.
Elle ne va pas retracer en tout cas l'ensemble de sa vie, mais elle va uniquement se concentrer sur la période entre 1952 et 1968. 1968 qui est marquée par le comeback d'Elvis, ce comeback spécial. On retrouve donc en 1952 le jeune Elvis qui est face au miroir de sa chambre à coucher en train de se recoiffer, qui, on le sent, a envie en tout cas de percer dans la musique. Donc il est au sein du cocon familial, il défend le fait que lui veut être un artiste avant toute chose. C'est là qu'il va sur sa route s'arrêter au studio d'enregistrement du Sun, donc Sun Records qui est, il faut le savoir, un studio d'enregistrement dédié plus à la musique noire américaine. Il va rencontrer Marion Kesker, qui est en fait la secrétaire de chez Sun Records, avec qui il va parler, là où il va enregistrer le premier morceau qu'il aura payé 4 dollars, premier morceau qu'il offrira à sa maman.
Il faut savoir qu'à l'époque, tout qui voulait enregistrer un disque allait dans une firme qui produisait des disques et s'installait dans une cabine et enregistrait son disque pour pouvoir l'offrir à la personne qu'il souhaitait.
Oui, donc ça s'est vraiment passé, pas du tout reconnu en tout cas comme artiste, mais simplement comme personne voulant acheter l'enregistrement de sa voix et de ce morceau. Après cet enregistrement, donc il va nouer contact avec cette secrétaire et il va rencontrer sur sa route Sam Phillips, le directeur de ce studio, qui va l'écouter, qui va pas lui reconnaître en tout cas une grande voix, ça c'est certain, mais surtout son swing, cette fraîcheur, ce côté nouveau, puis aussi que c'est un chanteur blanc et donc potentiellement aussi c'est quelque chose qui se vendra mieux. Il reconnaît aussi en Elvis Presley une très grande mémoire pour pouvoir intégrer les textes. Petit à petit, Elvis va commencer à se produire. Il va se produire d'abord en trio avec les Blue Moon Boys qui vont l'accompagner à la fois à la guitare et aussi à la batterie. Et au fur et à mesure, il va être approché par un impresario qui voit en Elvis en tout cas un très haut potentiel et qui va petit à petit s'approcher de lui pour pouvoir décrocher un contrat. Donc cet impresario s'appelle le Colonel Parker. Colonel Parker qui va être un personnage central dans la vie d'Elvis.
Assez trouble, hein, d'ailleurs.
Un personnage aux dents longues. Et ça, on le sent directement pour Elvis à l'époque qui est relativement jeune. C'est quelqu'un qui galvanise beaucoup et qui dégage une puissance et une force qui fait que tout de suite, Elvis est sous la coupe de ce personnage qui lui dit, si aujourd'hui tu gagnes quelques centaines de dollars avec tes prestations, sache que moi, je suis prêt à t'acheter pour 1 million de dollars. Donc voilà, ce qui, tout de suite, met un peu des paillettes dans les yeux du jeune chanteur et surtout quelqu'un reconnaît le talent, son talent de chanteur.
Mais à nouveau, quelque chose qui est derrière tout ça, c'est les sentiments que Elvis a pour sa mère, parce que si effectivement il va signer avec le colonel, c'est simplement parce que le colonel lui promet beaucoup d'argent et que ça va permettre d'améliorer la qualité de vie de sa mère.
La famille Presley n'est pas originaire de Memphis. Ils ont dû déménager par manque de moyens financiers. Et donc, ils sont dans une situation relativement précaire. Et avant même d'être approchés par le colonel, Elvis avait dit à ses parents qu'un jour, il leur offrirait une maison. Et donc, c'est cette maison aussi qu'on va retrouver. Et donc, ce lien avec ses parents qu'on va retrouver quand il fera l'achat de Graceland. Quelques années plus tard, après avoir signé ce fameux contrat avec le colonel. Colonel qui, de manière très insidieuse, mais aussi très intelligente, va essayer aussi d'avoir les parents, du coup, d'Elvis avec lui pour pouvoir signer ce contrat. Un contrat quand même qui le lie pendant 20 ans, pour lequel il touche 15% des parts du revenu d'Elvis Presley. Donc, ce qui est quand même en tout cas bien joué de la part de ce businessman.
On sent bien la mainmise que ce personnage a sur Elvis Presley. On voit que, justement, si Elvis Presley a fait certains mauvais choix, notamment au niveau du choix des scénarios de certains films, au niveau de certaines chansons, c'est parce que le colonel l'y a incité, pas nécessairement parce que c'est ce que lui voulait faire.
Il faut que je vous parle de West Side Story.
Assieds-toi.
C'est la super classe ce film et on me propose le premier rôle. Je pourrais me donner à fond, colonel.
Tu connais la durée du tournage?
6 mois.
On peut tourner 5 films en 6 mois.
Oh, mais c'est une chance de faire un film spécial, un film vraiment fort.
Elvis, laisse-moi te donner un cours d'économie. G.I. Blues, ton premier film après ton retour, une comédie musicale, genre que tu n'as plus l'air d'apprécier, il a cassé la baraque et rapporté des millions. Ton deuxième film, Les Rôdeurs de la Plaine, une très belle histoire dramatique, la critique a adoré, pas un radis. Quelle est ta conclusion?
Vous concluez vous-même? Vous êtes tellement bien parti.
Les gens ont des existences tristes. Ton rôle à toi pendant 90 minutes, c'est de leur faire oublier tous leurs petits tracas. Et non de leur mettre sous le nez une espèce de fausse représentation de la misère. Ce que les gens veulent voir, c'est une sorte de paradis où ils n'ont pas les moyens d'aller. Des jeunes femmes affriolantes et Elvis Presley faisant le joli cœur et chantant allègrement 6 chansons qui constitueront le disque de la bande originale. C'est ça notre gagne-pain, fiston. Il faut qu'on s'en tienne à ce que les gens achètent. On n'a jamais vu un marchand de glace passer de vanille fraise à vanille pruneau sous prétexte qu'il digère mal et qu'il ne fait plus popo. Tout ne s'est pas passé comme je te l'avais dit. Pendant une toile, tu jouais au soldat. Est-ce que tout n'a pas fonctionné exactement ainsi que je l'avais dit?
Si, monsieur.
Voilà. Toi, tu rapportes les millions. Et moi, je trouve les marchés. Chacun son job.
Ouais, monsieur.
Les choix artistiques étaient très largement, bon, dans la réalité, je ne sais pas ce qu'il en était, mais des écrits que j'ai pu lire, et je pense que en ça, la mini-série relate en tout cas les choses de manière la plus objective, c'est que les choix artistiques étaient davantage faits par le colonel qui voyait plus Elvis comme une pompe à fric plutôt que comme un artiste. Et donc 31 films à son actif, ce qui est énorme, pour lequel si on peut en retirer un ou deux où la critique a été relativement bonne, pour le reste, il s'agit vraiment de navets, plutôt aussi sous des formats de comédie musicale en fait, hein, parce qu'il était important qu'Elvis puisse chanter à travers ses films au moins 6 morceaux qui seraient repris comme étant la bande originale du film et donc qui pouvait aussi créer des revenus supplémentaires.
Et de fait, la plupart du temps, les films qui étaient tournés de ce fait-là, l'histoire n'était qu'un prétexte pour inclure justement les 6 chansons.
Et d'ailleurs, il y a par exemple aussi un des films qui avait été prévu à la base pour James Dean et vu qu'ils ont choisi Elvis à la place, ils ont remanié un peu le film pour incorporer des chansons et qu'il puisse chanter durant le film.
Oui, c'est ça. Il y avait des choses qui étaient faites sur mesure pour lui parce qu'on savait que de toute façon, derrière, il y avait beaucoup d'argent. Aussi, il faut savoir que ces films, c'était aussi un prétexte pour pouvoir exporter Elvis. Il faut savoir que le colonel n'a jamais voulu qu'Elvis fasse des tournées internationales, et notamment européennes. Et le cinéma était une manière de pouvoir exporter Elvis avec ses chansons. Les films étaient aussi un prétexte à diffuser cette image.
Si je ne peux pas voir Elvis en concert, j'irai le voir au cinéma.
Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment ça. Donc ce personnage du colonel est vraiment un personnage sombre. Il est interprété par Randy Quaid, qu'on a notamment vu dans Le Secret de Brokeback Mountain, ce qui lui confère aussi un côté un peu humoristique, je veux dire, ou en tout cas...
Plutôt antipathique comme personnage, mais il est un peu risible, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt oui, le côté risible du personnage est très caricatural. Bon, on le voit avec dans les premières images où il va approcher lui Elvis, on le voit notamment avec un gros cigare. Enfin, on sent le type, le gros businessman. Enfin, c'est un peu caricatural.
Ici, on a parlé donc beaucoup de sa vie professionnelle, de sa carrière. Est-ce qu'on va aborder sa vie personnelle? Donc, par exemple, je sais qu'il est parti à un moment donné en Allemagne pour son service militaire, là où il a rencontré Priscilla. Est-ce qu'on en parle dans la série?
Oui, on en parle. Du coup, aussi, ce qui est à relever, c'est un bon équilibrage. On n'est pas plus dans l'homme de scène que plus dans sa vie privée. L'un et l'autre s'articulent plutôt assez bien. Donc oui, on va parler de sa vie privée, même si on peut regretter que certaines relations ne soient pas plus exploitées. On a parlé tout à l'heure de la relation avec ses parents. Il y a une interaction entre Elvis et sa mère lorsqu'ils sont à Graceland, et on voit sa mère mourir en fait véritablement du fait d'être dans cette prison dorée, parce qu'il faut savoir que comme la popularité d'Elvis est devenue tellement énorme, sa maman ne peut plus sortir de chez elle sans être arrêtée par des journalistes, des paparazzis. Enfin, je sais pas si à l'époque ça existait déjà, mais en tout cas, ces jeunes femmes aussi complètement hystériques. Sa maman, donc, on le voit aussi, décède justement quand il part au service militaire en Allemagne. Donc il y a toute cette partie-là, quand il part au service militaire. Là, il utilise aussi des images d'époque, parce que voilà, la mini-série ayant les moyens qu'elle a aussi, je trouve que c'est une façon plutôt assez intelligente de ne pas démultiplier les frais de décor et pouvoir parler malgré tout de son départ en Allemagne, de son retour d'Allemagne. Puis alors il y a aussi évidemment cette relation centrale qui va se créer avec Priscilla. Priscilla, il faut savoir qu'à l'époque elle a 14 ans, que son père aussi est un militaire envoyé en Allemagne pour une mission bien précise. Et en même temps, voilà, ça met aussi une certaine ambiguïté sur cette relation. Elvis va prendre Priscilla, la ramener chez lui, il va lui donner la possibilité d'aller à l'école, etc., jusqu'à l'âge de sa majorité, puis bah, on sait, l'épousera, etc. Mais c'est une relation assez étrange, et là aussi, ça lève peut-être le voile, et en même temps, je sais pas si on apprend des choses nouvelles, mais savoir que Priscilla était gardée à la maison précieusement, que pendant ce temps-là, Elvis avait quand même malgré tout une certaine liberté avec les femmes, donc on verra notamment qu'il est pris d'amour, de passion, en tout cas pour une actrice. Priscilla, elle est complètement rongée de l'intérieur parce qu'elle apprend ça par la presse, mais qu'elle n'a aucune prise sur ce qui se passe. Et puis, bon, ce qui est aussi, je trouve, dommage, donc, comme on le sait, la mini-série s'arrête en 1968 avec le comeback d'Elvis. Donc, il y a vraiment eu, donc, après son retour de l'armée, des années à passer, vraiment à marcher dans le désert, parce qu'il n'y avait plus que des films, et des films qui n'avaient pas beaucoup de sens pour lui. Après ses traversées du désert, il a commencé à reprendre la musique, donc il y a le comeback, s'ensuit alors le contrat vers Las Vegas avec la construction d'un nouvel hôtel et le nombre de shows qui vont suivre. Et là, s'arrête la mini-série. Donc, on n'a pas la déchéance totale non plus, même si on voit que progressivement, après son retour de l'armée, il commence à prendre des médicaments et être addict, à être plus agressif. On n'en est pas au point de cette image d'Elvis complètement boursouflé et rongé par la drogue.
Oui, on reste sur une note positive d'Elvis.
Ça va ?
Oh, monsieur Phillips, j'ai les genoux qui tremblent, c'est terrible. Je suis pas bon au public.
Ils vont t'adorer, t'inquiète pas.
Ils sont tous venus pour voir Slim Whitman. Ces gens-là sont venus pour écouter du Hillbilly.
Allez, détends-toi, tu veux, ça va très bien se passer. Allez, Sian, c'est parti, mon garçon.
Nous avons ce soir un jeune homme dont le disque commence à faire du bruit ici à Memphis. Réservez-lui un chaleureux accueil, Elvis Presley.
Allez, va leur montrer.
Bon, parti, Elvis.
Est-ce que tu aurais des reproches à faire à cette série? Est-ce que tu as trouvé que c'était suffisant pour peindre 6 années de sa vie? Est-ce que tu as des critiques?
Parce que sur un biopic comme celui-là, c'est quand même une histoire relativement connue. Donc, la question qu'on se pose par rapport à ça, c'est 1. Est-ce qu'on apprend des choses? Et 2. Est-ce que le jeu d'acteur est convaincant, puisque finalement, ils doivent incarner des personnages existants qui sont encore très présents dans l'inconscient du public. Donc, est-ce que c'est bien joué ou pas trop?
En tout cas, pour ce qui est de ta première question, je pense qu'on n'apprend pas vraiment de nouvelles choses. Ça donne un relief supplémentaire à l'histoire. Voilà, il y a peut-être des petites choses, notamment le fait que Elvis mettait du mascara pour aller sur scène. Enfin, peut-être ce genre de petites choses qu'on apprend après l'histoire. En soi, je pense que on respecte vraiment ce qui a été relevé et on s'en éloigne pas vraiment. En plus, on développe pas vraiment non plus les relations entre les personnages. on s'en tient aux faits, donc sur ça on ne se trompe pas.
Ça va pas poser polémique.
C'est pas du tout une mini-série polémique du tout. C'est une mini-série sans prétention, mais qui fait son travail et qui le fait bien, et qui annonce bien la couleur. Je trouve que voilà, en ça, on sait dans quel jeu on joue. Par contre, par rapport à l'interprétation, moi j'avais un peu du mal avec Jonathan Rhys-Meyer. C'est pas parce que c'était lui, mais aussi parce que ce genre de personnage, comme tu le dis, on l'a bien dans la tête. Et donc, du coup, c'est difficile de se décrocher d'Elvis Presley et de tomber sur un autre visage, même si je trouve que, notamment de profil, il y a quand même des similitudes assez fortes. Mais par contre, où j'ai eu un peu plus de mal, du coup, c'est dans les shows, en fait. Il y avait une certaine énergie. On voit vraiment qu'il danse, ou en tout cas, il y a un même déhanché. Mais le playback est pas toujours hyper convaincant. Parfois, on est même un peu à côté. Et donc, ça rend un peu les choses artificielles.
Dans le sens où le leaping est pas du tout suivi, ou par moment.
Oui, c'est ça. Le leaping est pas suivi. Et puis, on sent que c'est pas sa voix, lui.
Il aurait peut-être mieux valu que Jonathan Rhys-Meyer, s'il avait la voix qu'il fallait, puisse réinterpréter les titres.
Pourquoi pas?
Ou alors utiliser des images d'archives exclusives pour montrer Elvis.
Il y a des images d'archives, mais plutôt alors tournées vers le public. Mmh. Donc on voit des fans complètement hystériques. Je sais pas, mais en tout cas, à ce niveau-là, il aurait fallu tester autre chose. Ça, c'est en tout cas une des faiblesses de la série. Je le disais en souriant, mais la non-maîtrise du brushing. C'est vrai qu'au départ, j'ai l'impression que ça évolue au fil de la série, mais il y a quelque chose d'un peu artificiel aussi dans la façon de se coiffer, qui fait que l'incarnation du personnage n'y est pas 100%. Malgré tout, il est clair que cette mini-série reste une mini-série de qualité. Et que si vous voulez, en tout cas, apprendre des choses, du moins pour les personnes qui connaissent pas la vie d'Elvis, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir rentrer.
C'est clairement pas la série à conseiller à un fan, parce qu'il va pas y découvrir grand chose.
Ça, c'est certain.
Mais pour aborder Elvis Presley, ça peut être une bonne porte d'entrée, on va dire.
Ça, clairement.
Et ben voilà, j'espère qu'on vous aura peut-être donné envie de pouvoir découvrir cette mini-série. Si vous n'avez pas encore passé le pas, ce sera peut-être l'occasion d'en découvrir plus sur Elvis. Et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain dossier.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.